m'avez manqué.
Je vais ce soir vous faire désirer et aimer la République.
La bête de l'événement est là.
La République, c'est moi.
Je vous demande de vous arrêter.
Non, il ne faut pas tomber dans un extrémisme extrême.
Non, je le dis avec courtoisie, mais
oui. Avec courtoisie, bien sûr.
Ce que vous proposez, comme d'habitude, c'est de la poudre de perlimpinpin.
Il y a des gens qui n'ont pas envie d'être métissés, monsieur Attali, excusez-les.
Calme, au secours.
Voilà, bah c'était un peu l'envie de vomir sur ces ordures. Enfin, pardon.
Vous êtes sur Radio Courtoisie.
Bonjour à tous, il est 17h30, bienvenue dans Restons Courtois, l'émission de débat de Radio Courtoisie, chaque jour en direct de 17h30 à 19h30. Alors au programme, comme chaque mercredi, deux invités. Nous recevons tout d'abord François Cereza, Cereza qui veut dire cerise en italien, journaliste, écrivain, auteur de nombreux romans, d'essais, récompensé notamment par le prix Michel Déon pour l'ensemble de son œuvre, et qui publie aujourd'hui Nos Amis les Traîtres, sous-titré Retour sur une spécialité française, la trahison. À 18h30, nous recevrons Benoît Duboulin, directeur d'Ictus, essayiste, professeur d'histoire nos idées politiques, et qui publie « Quelle laïcité pour demain ?» chez Bolène, un livre qui interroge la place de la laïcité en France, son usage politique et peut-être son évolution idéologique aussi. Je vous rappelle, chers amis, que le magazine de l'Incorrect vous attend chez votre marchand de journaux. Il est plus disponible sur le site, mais il vous attend dans les kiosques, les relais, les bars tabac. Bref, là, on trouve encore de la presse. Et à la une, donc Charles Alloncle, qui accuse l'audiovisuel public... Donc le rapporteur de la commission d'enquête qui, en tout cas les auditions, prennent fin ce soir avant son rapport qui sera mis au vote en fin de mois. Et je rappelle que si ce rapport n'est pas voté, ben tout disparaît. Je vous rappelle également, chers auditeurs, que vous pouvez participer à l'émission par courriel, par téléphone pour poser vos questions à nos invités. François Cereza, bonjour.
Bonjour.
Merci d'avoir accepté notre invitation. Alors, vous êtes journaliste, écrivain, romancier, essayiste, auteur d'une œuvre déjà bien abondante, plus de 40 ouvrages, parmi lesquels on peut citer Dictionnaire égoïste du panache français au Cherche-Midi, Total Western chez Séguier, Poupe aux éditions du Rocher, pour lequel vous avez reçu le prix Louis Barthou de l'Académie française. Et donc, vous publiez aujourd'hui Nos Amis les Traîtres au Cherche-Midi. Donc, derrière ce titre appétissant, il y a un sujet redoutable, la trahison. Comme geste politique, comme pote morale, comme ressort romanesque, comme spécialité nationale. Bref, si l'on en croit vous tout de suite, ça reste une spécialité française, la trahison. Alors, vous l'aurez compris, chers auditeurs, si vous aimez l'histoire française, quand elle cesse d'être édifiante pour dire passionnelle, contradictoire, mauvaise foi, infâme, bref, toujours vivante, vous êtes au bon endroit. Mais avant cela, nous avons une tradition dans cette émission, c'est celle de passer nos invités à la question.
Ne perdons pas notre temps.
Ils peuvent me tuer, je parlerai pas.
Mais moi non plus, ils peuvent vous tuer, je ne parlerai pas.
C'est vous.
Ah, c'est comme ça. Nous avons les moyens de vous faire parler.
François Cereza, quel est votre traître préféré?
Talleyrand.
On reviendra. La trahison la plus romanesque de notre histoire?
Celle de Talleyrand.
La plus basse de notre histoire?
Celle de Talleyrand.
Ah là, donc Talleyrand est partout. John Ford ou Sergio Leone? Talleyrand.
Sergio Leone.
Sergio Leone. Vous êtes élu président de la République. Vous préférez deux quinquennats avec des fidèles mais idiots ou un quinquennat avec un traître de génie?
Un quinquennat avec un traître de génie.
Quel est le mot français le plus trahi?
Loyauté.
Le personnage français qui avait le plus de panache?
Alexandre Dumas.
Eastwood ou John Wayne?
John Wayne.
Un acteur français qui aurait fait un bien meilleur Cobol que Fernandel?
Louis de Funès.
Fernandel qui a joué, pourquoi je le cite, dans Jack Dynamite, un western français, qu'il n'aura jamais dû se faire d'ailleurs. L'écrivain le plus surestimé?
David Fuenquinos.
Pas mal. Merci beaucoup François Cereza, maintenant qu'on vous connaît un peu plus, on va entrer donc, dans votre livre, Nos Amis les Traîtres. Donc, retour sur une spécialité française, la trahison, chez nos amis du Cherche-Midi. Alors, première question, simple, pourquoi un livre sur la trahison et sur les traîtres?
Parce qu'on est cerné par les traîtres. Vous n'avez pas remarqué? Les traîtres, ils sont partout. Et je vais dire une chose, c'est qu'on peut considérer ce sujet de la trahison de deux façons. Ou de façon plutôt drôle, comique, rigolote. C'est-à-dire que lorsque l'on voit des films de cap et d'épée, s'il n'y a pas un traître dans l'histoire, ça ne marche pas. Vous pouvez regarder Ivan Noé, Quentin Duvrard, enfin Robin des Bois, etc. S'il n'y a pas de traître, donc ça c'est plutôt amusant. Maintenant, on peut considérer la chose de façon moins amusante quand il y a des traîtres de haute graisse, si je puis dire, qui précipitent le monde dans la mouise.
Alors, Est-ce qu'il y a un art français de la trahison ? Parce que quand on trahit, quand on est français, on ne trahit pas comme un anglais.
Bah écoutez, je ne vais pas dire que c'est un... Parce que finalement, on a Iago dans Shakespeare, qui trahit son maître, et Desdémone. On a évidemment Judas.
Est-ce que Judas, ce n'est pas le premier traître de l'histoire ?
Bah oui, mais c'est un traître qui n'est pas français.
Oui,
moi, je me suis attaché vraiment à parler des traîtres français. Donc,
mais il n'y a pas beaucoup de Français à cette époque-là.
Non. Il y avait quelques Gaulois, mais il y a eu des traîtres, d'ailleurs, qui ont trahi ce pauvre Vercingétorix et qui ne sont pas venus se joindre à l'armée de Vercingétorix contre César, qui aurait évité la désastreuse bataille que l'on connaît. Mais non, moi, j'ai pris... Parce que vous savez, c'est une sorte de dictionnaire, c'est très personnel, c'est moi qui choisis, c'est pas vous, c'est pas Tartempion.
Donc, mais je n'aurais enlevé quelques-uns,
hein. Ah oui,
et j'en aurais rajouté d'autres.
Oui, mais voilà.
Exactement. Bon, on reviendra dans le détail, et parce que c'est très sympathique. Raison.
Bon, moi j'ai mis historiquement le premier, parce que c'est, évidemment c'est dans la chanson de Roland, c'est, hein, sauf que c'est un traître de fiction. Encore que, d'après certains écrits, il a existé. C'était un moine, un évêque, voilà.
Alors, est-ce qu'on peut faire un portrait type du traître ? Ou alors, il y a autant de traîtres, portraits de traîtres que de traîtres, parce qu'il y a le traître romanesque, il y a le traître vraiment salaud. Est-ce que tous les traîtres sont méchants ? Est-ce qu'on peut faire un portrait robot ?
Non, parce que le traître est toujours romanesque. C'est ce que je vous disais au début, c'est que s'il n'y a pas de traître dans une histoire... ou dans l'histoire, avec un grand H, il n'y a plus d'histoire. Donc, pourquoi, comment on trahit ? On trahit par idéal, par ambition, par vengeance, par lâcheté, par devoir. On trahit de plusieurs façons. D'ailleurs, il y a beaucoup de gens qui se sont penchés sur le sujet et qui ont écrit déjà sur les traîtres, pas sur les traîtres français. Moi, encore une fois, j'ai voulu insister sur les traîtres français parce que la période que je préfère, où d'ailleurs j'ai beaucoup écrit de livres sur la Révolution française ou sur l'Empire, il y a un nombre de traîtres incroyables. Ça va de Pichegru à Murat, en passant par Ney, tous ces gens qui sont des chevaliers de la table ronde pratiquement, qui sont vraiment des personnages hors du commun. Comment en arrive-t-on à trahir ? Alors, par rapport à l'empereur, on peut se poser la question et on peut tout de suite répondre. J'en ai parlé avec Jean Tullard, qui est quand même un expert, spécialiste de Napoléon. On trahit parce qu'on en a marre. Après 10 ans, 15 ans de campagne, être toujours sur les terrains de bataille, il y a un moment, on n'en peut plus. D'ailleurs, il y a un formidable maréchal pour lequel moi j'ai une admiration incroyable, qui s'appelle Lannes, et qui est mort et qui a dit à Napoléon, au moment où il allait mourir, il a été amputé des deux jambes avec boulet de canon, ça suffit. Voilà, donc on peut expliquer la trahison, et je trouve qu'elle a un certain panache.
Donc la trahison peut être morale ?
Bien sûr, oui.
Alors, est-ce qu'un traître, alors vous allez me dire que non, mais est-ce qu'un traître doit être méchant ?
Non, pas forcément. Un traître n'est pas méchant et un héros n'est pas forcément gentil. Vous savez, on a des traîtres pendant l'occupation, qui est un sujet évidemment important. Et les traîtres que l'on remarque, et qui sont des traîtres de grande envergure, sont parfois des gens qui étaient des pacifistes. Ils avaient la guerre de 14, ils l'avaient eu en travers. Je pense à un gars comme Marcel Déat, ou même comme Jacques Doriot, qui ont fait la fin de la guerre de 14 et qui ne voulaient plus jamais ça. Mais bon... Ils ne voulaient plus jamais ça, et puis ils ont trahi. Alors, ils ont trahi par quoi ? Moi, il me semble-t-il, les traîtres, d'une façon générale, c'est par déception. Les déçus, il n'y a rien de tel.
Rémi Carlu.
Alors, quel est pour vous le critère pour juger de la traîtrise ? Est-ce que c'est le fait d'avoir changé d'allégeance, d'avoir tourné le dos à son chef, d'avoir trahi la France, d'avoir trahi des valeurs ? Parce qu'en fait, c'est effectivement très subjectif, et ce sera ce que va montrer, à mon avis, notre discussion ensuite. Ouais. Quel est pour vous, qu'est-ce qui fait que vous dites que celui-ci est un traître ?
En ce qui concerne la France, c'est quand on trahit la France. Ça remonte au Moyen-Âge. Hein. Je pense à, Dammartin, qui était un grand copain de Philippe Auguste. Il a été élevé avec lui. Ils ont joué ensemble, ils ont guerroyé ensemble. Et au moment de Bouvines, ce Dammartin, il passe à l'ennemi, en l'occurrence, les Autrichiens... et les Anglais de Jean Santerre. Pourquoi ? Alors, il avait tout. Vous voyez ? Bien parfois, c'est parfois inexplicable. C'est-à-dire quoi ? Il veut être vizir à la place du vizir ?
Est-ce qu'on juge un traître ? Un traître se juge ou se qualifie sur le temps long. Si vous parlez de traître à la France. Prenons l'occupation, période intéressante, ça crée toujours le débat, donc c'est bien. Bon, il y a l'occupation, la collaboration, il y a Vichy, l'État en France, il y a Pétain. Bon, est-ce que les résistants sont des traîtres à ce moment-là ? Est-ce que si on avait, finalement, on serait resté allemand, heureusement on ne l'est pas, mais imaginons, les Allemands ne perdent pas la guerre, on reste sur le temps long, aujourd'hui on aurait dit les résistants sont des traîtres.
Ben, je vous rappelle qu'il y avait eu le pacte germano-soviétique. Et comment on dit pacte germano-soviétique, les communistes, beaucoup de communistes en tout cas, défendent l'Allemagne et sont pour l'Allemagne. Alors c'est quoi ? C'est des traîtres ?
Les communistes sont toujours des traîtres.
Oui,
je vous rappelle c'est facile.
Que comment, pas Marcel Cachin, mais l'autre là, Maurice Thorez. Mmh. Maurice Thorez, il est dans l'armée française, il déserte.
Absolument.
Normalement, il aurait dû être fusillé. Oui ou non ?
Ah oui, bien sûr.
Voilà.
Mais on doit fusiller les communistes, même s'ils désertent pas. Par principe. Alors, vous avez fait le portrait de 52 traîtres. Il y en a un par semaine sur un an, c'est bien. Ouais. Le dernier étant un petit panel de ceux que vous ne voulez pas oublier, mais qui ne méritaient pas non plus un chapitre entier. Alors, on trouve des personnages, il y a Bordesoulle, Pétain, Grouchy, il y a Chirac, Philippe Égalité, Sarkozy, ça fait plaisir. Étienne Marcel, Macron aussi. Alors, il faut reconnaître, vous êtes généreux, quoi. Il y en a pour tout le monde. Comment vous avez fait votre sélection ? Alors, c'est très subjectif, évidemment, mais sur quels critères vous êtes basé ? Parce que forcément, si vous avez une passion pour les traîtres, bon, il y a de quoi en faire au moins 500, quoi.
C'est pas une passion pour les traîtres, c'est vraiment une analyse de pourquoi on se plante souvent en France. Vous savez, il y a une phrase que je trouve remarquable du Tigre, de Georges Clemenceau, ils savent tout et ils comprennent rien. C'est tout simple, ça pourrait s'appliquer aujourd'hui. Donc les gens, ils peuvent passer d'un truc à l'autre en fonction des intérêts qu'ils ont, en fonction du poste qu'ils ont. Ils ne veulent pas lâcher le morceau. Et donc, on assiste à ce que l'on a assisté récemment aux élections municipales,
ah oui.
Avec des socialistes qui ont dit « Ah non, il n'est plus question, pas question de s'allier avec les LFI ». Et puis on a vu certains qui se sont alliés avec les LFI. Alors c'est quoi ? C'est des traîtres ? C'est des cons ? C'est des lâches ?
C'est des gens qui ne veulent pas perdre.
Voilà, exactement. C'est des gens qui ne veulent pas perdre. Eh bien, vous avez mis le doigt dessus. Les traîtres, souvent, ce sont des gens qui ne veulent pas perdre. Il n'y a pas de panache.
Ah, donc c'est ça. C'est ma autre question, c'est ça. Est-ce qu'on peut trahir avec panache en fait ?
Non, c'est difficile. Ça me semble difficile. Tout à l'heure, on parlait de Talleyrand. Moi, je déteste Talleyrand. Il dit « Tout ce qui est excessif est insignifiant ». C'est une phrase de Talleyrand. Moi, je trouve que tout ce qui est excessif est signifiant, au contraire. La trahison, c'est très signifiant, c'est pas insignifiant. Lui, il s'est levé dans la trahison depuis le début, que ce soit la Révolution française, avec Bonaparte...
Justement, allons sur Talleyrand, ça fait plaisir de le critiquer un peu. Racontez-nous un peu pourquoi vous détestez Talleyrand.
Je le déteste d'abord parce que c'est un évêque, il a été évêque d'Autun, et qu'il entretient avec les dames beaucoup, beaucoup de relations. Alors, il va pas être... Pendant la Révolution, il ne sera pas comme son alter ego, je ne sais pas comment on peut dire, à propos de Fouché, il ne sera pas le mitrailleur de Lyon. Mais enfin, il est quand même très sévère. Il est très sévère, notamment à l'égard de ses coreligionnaires et notamment à l'égard de tous les prêtres de l'époque. Il est prêt à les envoyer à la guillotine.
Ouais.
Et puis d'un seul coup, vient Bonaparte, et là, il se trouve une nouvelle victime, si je puis dire, une nouvelle voix. Vous êtes de la merde dans un bas de soie, lui dira un jour l'empereur. Bon, c'est une phrase très connue. Est-ce que c'est vraiment lui qui lui a dit, qui l'a dit ? On ne sait pas. Mais enfin, je trouve ça tellement
ça lui va bien.
Beau, ouais. Vous êtes de la merde dans un bas de soie. C'est le diable boiteux. Hein. Il y a un film de Sacha Guitry qui était formidable. Mais aucune admiration, parce qu'on pourrait dire, on peut avoir de l'admiration pour Monsieur Talleyrand, parce qu'il a tellement fait pour la France, pour les rapprochements, pour essayer de rapprocher les grands pays de l'époque, qui sont évidemment la Russie, l'Autriche et l'Angleterre, avec la France. Mais en fait, il a toujours joué, il n'a pas joué pour la France, il a joué pour lui.
Rémi, Pierre-Luc.
Oui, nous autres Français avons une haute idée de notre pays, et pourtant vous écrivez, c'est votre sous-titre, que la trahison est une spécialité française. Qu'est-ce qui, dans l'écosystème français, fait qu'on est plus porté à la trahison que dans d'autres pays? Est-ce que c'est parce qu'on est une nation politique, que tout tient par la politique, et que donc tout se joue sur ce...
Je crois que c'est un système éditorial d'avoir mis...
C'était pour mieux vendre.
D'accord.
Non, ouais, pour mieux vendre, ou pour mieux accrocher, je ne sais pas, une spécialité française, je pense que ce n'est pas une spécialité française. Il y a d'autres pays où la félonnerie, parce que ça c'est un joli mot, les félons, c'est formidable, existe aussi. Hein,
je veux dire. Parce qu'on
c'est des pays qu'on ne connaît pas, mais par exemple le Danemark, la Suède, qui ont été souvent en guerre et tout ça, il y a des trahisons incroyables. Mm. Bon, l'Angleterre, qui nous accuse d'avoir guillotiné un roi, eux, ils ont coupé la tête à l'un, et ils ont mis un pieu brûlant dans le cul à un autre. C'est vraiment bon. Ils n'ont pas à nous donner de leçons.
Ah voilà. Puis de toute façon, ils sont nés avec la trahison. C'est dans leur sang. Ça coule dans leurs gènes, les Anglais. Remarque.
Oui, moi je voulais vous demander s'il y a une évolution du rapport à la traîtrise, puisqu'on sait que dans l'enfer de Dante, au fin fond de l'enfer et broyé par les mâchoires de Satan, il y a Brutus et Judas, le traître à l'Empire, le traître à César et le traître au Christ, qui tous les deux sont en fait parmi tous les péchés qui sont tout de même hiérarchisés, sont au fin fond, le pire de tous les péchés, c'est la trahison, ce qui est sans doute un truc très médiéval, où le rapport à la vérité et la loyauté est beaucoup plus important que tout le reste, et finalement, c'est le crime absolu. Or, on a l'impression, quand on voit l'actualité politique ou ce qui s'est passé depuis 10 ans, que finalement, aujourd'hui, même la population, d'une manière générale, est très miséricordieuse par rapport à la trahison. Donc, finalement, des hommes politiques, des hommes d'État qui, objectivement et très visiblement, trahissent.
Oh, bon, vous en parlez là-dedans.
Il y a une espèce de grande complaisance par rapport à ça. Donc, est-ce qu'il y a eu une évolution dans le rapport aux traîtres? Est-ce qu'il y a une nouvelle complaisance par rapport à la trahison?
Il y a plus une banalisation. je ne suis pas un admirateur forcené de M. Philippe de Villiers, mais il a dit une chose très juste. La trahison, c'est l'ADN de la politique. Ouais. Donc, tout est dit. On n'a pas besoin de revenir jusqu'à Ganelon, puisque le personnage dont je parlais sous la chanson de Roland, c'était Ganelon, évidemment, le traître Ganelon. Mais encore une fois, je veux dire, on peut considérer les choses de deux façons différentes, ou avec un certain détachement, et je dirais même un certain humour, et pourquoi pas d'un aspect comique. Et puis de l'autre, quand il s'agit de choses très dures, et qui sont en plus pas loin de nous, parce qu'on ne s'en est toujours pas remis de cette collaboration et de cette défaite incroyable contre les Allemands, dirigée par des crétins, l'armée française. Donc, évidemment que... Ça pèse énormément, et là, on n'a pas envie de rigoler. On n'a pas envie de rigoler, bien parce sûr, que c'est lié aux Allemands, c'est lié aux nazis, c'est lié à l'élimination des gens dans les camps de concentration et tout ça. Et quand il y a des gens de gauche comme de droite, mais je disais de gauche parce que je trouve ça plutôt amusant, parce que souvent les gens de gauche disent « Oui, c'est vous l'extrême droite » et tout ça, mais malheureusement pour eux, il se trouve que sous l'occupation... j'avais relevé, moi, j'ai 2 ou 3 dictionnaires de la collaboration avec des choses bien précises et tout ça, et vous n'imaginez pas le nombre de radicaux, de socialistes et de communistes qui sont devenus pétainistes. À l'inverse, nous avons des gens qui étaient Action française, royalistes, d'extrême droite, militaires, et qui ont été les premiers à rejoindre De Gaulle à Londres. Donc tout ça est une histoire assez compliquée. Le manichéisme là-dedans, je trouve ça assez... C'est pénible. Quoi. Voilà.
D'ailleurs, on le voit avec le film de Giannoli, Les rayons, les ombres, qui est donc le biographie de Jean Lucher, et on voit la réaction des historiens qui montent au créneau, et notamment Laurent Joly, qui expliquait, bon d'accord, il a trahi, mais c'est une anomalie. Voilà.
Non, mais il a trahi, oui, parce que c'était un homme de gauche à l'origine. Hein,
donc c'est pour ça que c'est une anomalie. Bah, oui, bien sûr. Évidemment, c'est pour ça que ça les rend fous. Rémi Carlu.
Oui. Lucher.
Oui, le traître a-t-il des remords?
Ah.
S'il a des remords, il est foutu. Regardez Judas. Il a eu des remords, il s'est pendu.
Donc le traître qui réussit sa traîtrise, c'est celui qui ne se repent pas.
Ouais. Alors on parlait de Ganelon, justement, c'est intéressant. Vous dites, vous écrivez, Ganelon, c'est le traître essentiel. Il est essentiel parce qu'il n'a pas existé.
Oui.
Expliquez-nous un peu.
Non, ça, c'est un jeu, c'est de la littérature. Mais je vous dis, si, il a existé. Je ne sais plus quel est le nom exact du type, mais... D'ailleurs, qui est mort dans son lit, bien tranquille, Charlemagne n'a pas fait exécuter. C'est pas lui qui a trahi Roland à Roncevaux, parce que contrairement à ce que l'on croit, ce ne sont pas les Sarrasins qui ont tué Roland, mais ce sont les Basques, qui est quand même assez bon, rigolo. Et ce personnage n'a pas existé sous son nom, sous le nom de Ganelon, je ne sais plus, hein, je veux dire, avec, vous savez, avec tous ces gens, c'est évidemment compliqué de se souvenir de tout, ça a été un ecclésiastique de haut niveau qui s'est renié d'un jour à l'autre sans problème, comme beaucoup d'hommes politiques qui savent si bien se renier.
Alors, si vous
dites... Hein, c'est... Il y a une phrase, encore, je fais référence à Shakespeare, mais je trouve ça épatant. C'est un mot que j'emploie un peu souvent. Mais quand Shakespeare dit « Quelle époque terrible que celle où des idiots dirigent des aveugles », c'est tellement vrai, quoi. Donc, comment, par rapport à une phrase comme ça, comment peut-on ne pas trahir, justement ?
Oui,
normalement, on ne doit pas trahir. Hein, normalement, on doit être fidèle à son roi, si c'est à l'époque où Shakespeare parle, ou fidèle à son empereur, quand c'est Napoléon, fidèle au maréchal Pétain, quand... Mais ben non. Non.
Romaric Sangars.
Oui, il y a des cas extrêmes de trahison, extrêmes dans l'ambiguïté. Par exemple, la vision de Judas telle qu'elle était développée par Scorsese dans la dernière tentation du Christ, et qui en fait la reprise de théorie qui elle-même avait été recyclée par Drieu La Rochelle, puisqu'on parlait de collaboration et de Judas pendant l'occupation, où il essaye lui-même finalement de justifier ce qu'il conçoit comme une trahison, qui est celle d'un Judas qui est le traître nécessaire, c'est-à-dire que sans Judas, le Christ n'est pas crucifié, et il faut bien qu'il soit crucifié pour qu'il puisse ressusciter, et quelque part, on a l'impression que... Enfin, c'est une vision où Judas serait une espèce de martyr presque supérieur, au sens qu'il se sacrifie pour la cause, mais en prenant sur lui tout l'opprobre, en fait. Et alors, est-ce que c'est une figure, finalement, extrême et complètement paradoxale et ambigu du traître, est-ce que ça existe véritablement? Parce que, évidemment, Drieu a cultivé ce truc-là pour se justifier lui-même et que ça marchait pas dans son cas. Mais est-ce que ça peut arriver, ce genre de figure, ou est-ce que c'est un pur jeu de l'esprit pour que le traître tente de se justifier?
Il y a une part de dolorisme, vous savez, aussi. C'est-à-dire qu'il y a des gens qui aiment bien souffrir. Puisqu'ils aiment bien souffrir, faisons-les souffrir. Voilà. En ce qui concerne Drieu La Rochelle, c'était un homme avec toute la culture qu'il pouvait avoir et tout ça, qui était quelqu'un qui était complètement déséquilibré, comme vous savez, qui a été un beau combattant de la guerre de 14, avec Aragon, qui était apprenti médecin, ils étaient très amis tous les deux. Il n'a jamais cessé, finalement, Drieu La Rochelle, de vouloir devenir une sorte de victime expiatoire, quoi.
Oui, oui.
Et
il y a un masochisme.
Donc, je dirais pas que. D'ailleurs, je n'ai pas mis Drieu La Rochelle dans les traîtres. Non pas que j'admire cet écrivain pour d'autres choses. Je trouve que c'est quelqu'un qui arrive à bien se tenir et qui écrit formidablement bien. J'ai mis Brasillac. J'ai mis Brasillac. Pourquoi Brasillac? Parce que Brasillac, quand il écrit dans Je suis partout, je veux que les enfants des Juifs soient aussi déportés et soient exterminés, on ne dit pas ce genre de choses. Il a été fusillé, De Gaulle a refusé de le gracier. Pourtant, tous les écrivains, même Albert Camus, sauf les autres comme Sartre ou Aragon, ont refusé son recours en grâce. À ce propos, d'ailleurs, c'était amusant parce que j'ai très bien connu Claude Roy. Il se trouve que mes premiers romans, Claude Roy avait beaucoup aimé. Claude Roy était une figure de chez Gallimard. Et Claude Roy était un ami de Brasillac. Il venait aussi de ce pays charentais qu'aime tellement Mitterrand. Et il a été avec lui compagnon, j'allais dire fascisant. Je ne sais pas s'il faut dire le mot, parce que moi, fasciste, c'est un mot qui vient des Italiens, qui a donné naissance d'ailleurs à un film formidable qui s'appelle Massiste. Et fasciste, c'est quoi un fasciste? Un fasciste, c'est un homme de gauche à l'origine, c'est pas un homme de droite. Et si vous n'êtes pas d'accord avec un fasciste, qu'est-ce qu'il fait? Il vous fait boire 2 litres d'huile de ricin et il vous file des coups de poing dans le ventre. Là, voilà, c'est un fasciste. Avec tous les mots aujourd'hui que l'on a, notre politique actuelle, vous, si vous n'êtes pas d'accord avec moi, vous êtes un fasciste. Donc, cette définition, je ne pense pas donc que pour revenir à nos moutons, Drieux-La Rochelle et Claude Roy, que c'était des fascistes, mais c'était des camelots du roi, des amants. Bah,
Drieux, c'est comme défini comme fasciste. Donc,
oui.
Il a promu même le fascisme.
C'est vrai.
Donc,
ouais. Mais.
Mais pas Claude Roy.
On a l'impression que c'est comme une sorte de Malaparte, vous voyez.
Oui,
Malaparte aussi, hein, il promeut le fascisme à l'italienne. Lui qui a été dans la Légion garibaldienne,
oui.
Qui est donc venu combattre en 14 contre les Allemands avec les Français, sous drapeau français, puisque le. Ça, je peux en parler parce que mon grand-père a été dans la Légion garibaldienne.
Ah.
Donc, il a combattu contre les Allemands et c'était plutôt un homme de gauche. Or, c'est souvent le cas avec tous ces gens. Je parle de Malaparte, bon, ensuite il est devenu fasciste, puis après il est devenu communiste.
Il est,
bon, qui change.
Il est devenu tout à la fois, d'ailleurs.
Ouais, qui sont des girouettes.
On peut avertir nos auditeurs que nous avons un très bel entretien sur le Quarto Malaparte dans le dernier.
Ouais, c'est un superbe,
avec
superbe
Emmanuel
écrivain. Hein.
Matiato, extraordinaire écrivain, et qui, en effet, comme vous le dites, c'est ce que dit d'ailleurs Matiato qui a présenté. Ce Quarto, c'est un fasciste de gauche, entre l'aile du fasciste, qui est.
Mais les fascistes sont de gauche.
Oui, voilà,
alors
ils revendiquent la République. En fait, c'est au nom de la République française, son admiration pour la République française, qu'il devient fasciste.
C'est pas son vrai nom, vous savez, en plus. Hein, il a un nom à consonance allemande.
Kurt Zucker.
Voilà, Zuckert,
Zuckert, oui.
Et alors, c'est amusant, parce que bon, je rappelle juste que, comme vous avez parlé de Brasillac, qu'il y a eu un témoin des coups de fusil, c'était Alain Delon, parce qu'enfant, il était gardé par les gardiens de prison. Et donc, il a entendu l'exécution à l'aube de Brasillac. Question d'un auditeur.
Ah oui, parce qu'il habitait à côté du fort de...
Oui, il était hébergé par les gardiens là-bas.
Ah ouais, c'est ça.
Question d'un auditeur. Et d'ailleurs, vous avez évoqué son nom, Mitterrand. Pourquoi est-ce que Mitterrand figure dans la liste? Alors, je réponds que non. Pourquoi Mitterrand ne figure pas dans la liste?
Je suis absolument pas mitterrandiste. Je vous rassure tout de suite.
C'est suspect.
Je vous rassure tout de suite. Mais je trouve que ça a déjà été tellement fait. Il y a eu... Bon, De Gaulle aussi, on pourrait dire qu'il est traître. Hein. Il a trahi l'Algérie française.
Oui. Non, mais c'est la question d'après. Hein.
Ah, ouais.
C'est pourquoi De Gaulle n'est pas dedans.
Ah oui. Mitterrand, bon... Mitterrand, c'est un cas compliqué. Comme je vous disais, lui aussi, il vient de sa campagne. Il est très... royaliste, c'est pas le mot, mais il est très pétiniste. Il est tellement pétiniste qu'il sera décoré d'ailleurs de la Francisque par le maréchal Pétain lui-même. Il deviendra résistant. J'entendais un homme de gauche dire « Oui, mais quoi? Comment vous pouvez pas dire ça à propos de Mitterrand ?» Ben oui, Mitterrand, je crois que c'est entre 43-44 qu'il devient résistant. Pourquoi pas? Pourquoi pas? Il y a beaucoup de d'anciens ministres de Pétain, comme Bergerie par exemple, qui deviennent résistants à partir de 43-44. Mitterrand,
Vichy ou est-ce que c'est les traites de Vichy?
Mitterrand, vous savez qu'il était très Algérie française. Il était ministre, je crois, de l'Intérieur. Hein, c'est ministre de l'Intérieur pendant la guerre d'Algérie. Et il a refusé la grâce d'une cinquantaine d'Algériens qui ont été guillotinés. Et c'est cet homme-là qui est devenu président de la République des socialistes et des communistes. Bon, alors les communistes, on peut comprendre, ils ont 50 millions de morts à leur actif.
Oui.
Donc,
on plus à ça près.
C'est rien. Ouais. Alors, vous savez, c'est la fameuse phrase, c'est pas Trotsky, mais c'est un autre terrible type qui disait « Pour un ennemi du peuple, quatre murs, c'est trois de trop.
» Ils ont le sens de la formule.
C'est vrai, oui.
Nos camarades communistes. Alors, s'il n'y a pas de panache...
C'est aussi bien que c'est injuste. Hein.
Si le traître ne peut pas avoir de panache, est-ce que le traître peut avoir du génie? Est-ce que c'est même ça qui le rend séduisant? Est-ce qu'il y a des traîtres de génie?
De génie, je ne sais pas, mais indestructible d'une certaine façon. On en revient à notre ami Talleyrand. Indestructible. Mmh. Je veux dire, vous vous rendez compte un petit peu, il traverse toutes les époques.
Il a duré.
Ouais. C'est-à-dire, moi, si j'avais été dirigeant, je l'aurais fait arrêter et je le faisais fusiller.
Et vous ne croyez pas, alors, pardon, juste sur la théorie, enfin, la perspective de Bainville qui présente Talleyrand comme quelqu'un qui finalement aura servi la France, même s'il a toujours servi ses intérêts, et à la fin aura systématiquement servi la France, et qu'on lui pardonne presque ses trahisons ou sa bassesse morale au nom des services rendus à la patrie. Vous ne croyez pas à cette vision?
Non, pas du tout.
Non,
Dieu sait que là aussi, je ne suis pas un grand fan de Chateaubriand, mais il a bien raison. Hein, quand il... D'ailleurs, c'est lui qui a dit cette phrase. Le vice à la main. En parlant de Talleyrand et de Fouché. Non, mais ces gens-là, moi, je n'aime pas. Je veux dire, à la limite, j'aime Danton. On peut dire que Danton, il est ceci, Danton, il est cela. Mais quand Danton, on l'amène sur l'échafaud, nous imaginons, là, tous les quatre autour de cette table, on vous amène sur l'échafaud, c'est-à-dire vous allez passer la casserole dans 2 minutes, et il dit « montre ma tête au peuple, bourreau, car elle en vaut la peine. Et je lègue mes jambes à Couthon et mes couilles à Robespierre.
» Il savait parler, c'est le mot d'esprit.
Ah ouais.
Il est 18h, chers amis. Vous savez que si on peut parler des traîtres facilement et se plaindre que Mitterrand ne soit pas dans ce livre, et puis dire du mal de Talleyrand et de Fouché et tant d'autres, et même de Gaulle, eh ben c'est parce que vous êtes sur Radio Courtoisie, qui est une radio libre, parce que une radio qui ne dépend ni d'un mécène, ni d'un groupe, ni de l'État, mais uniquement de vos dons, donc de vous. Donc écoutez ce petit message, et on se retrouve tout de suite après.
Vous aimez Radio Courtoisie, mais vous n'avez jamais, jamais donné, même pas 5 euros. Arrêtez de laisser payer les autres à votre place. Faites un don maintenant sur soutenir.radiocourtoisie.fr ou envoyez votre chèque au 61 Boulevard Murat, 75 016, Paris. Et vous verrez, vous vous sentirez mieux.
Il est 18h01, vous êtes toujours dans Restons Courtois, l'émission de débat de Radio Courtoisie. Nous recevons François Cereza et nous parlons donc des traîtres, nos amis les traîtres. Dire qu'on s'amuse beaucoup, et puis là on a évoqué juste deux, hein. Il y en a 52, voire un peu plus à la fin, mais vous savez également qu'à 18h, c'est l'heure de la chronique de Rémi Carlu. Rémi Carlu, vous allez nous parler d'un petit problème théologico-politique.
Et oui, vous connaissez, cher Arthur, toute l'admiration que je porte aux travaux de Marcel Gaucher, et dernièrement, l'éminent philosophe publié « Comment pensent les démocraties ?», ouvrage qui est comme un écho supplémentaire de l'éblouissante symphonie intellectuelle qu'il a composée depuis 50 ans, pour tenter de saisir l'essence du mouvement moderne. Pour Marcel Gaucher, la modernité se caractérise par le passage bienfaisant, inéluctable et universel d'un monde hétéronome à un monde autonome. D'intégralement structuré par le phénomène religieux, les sociétés humaines deviendraient progressivement et pleinement maîtresses d'elles-mêmes, de ce qu'elles sont et de ce qu'elles deviennent. L'homme occidental serait enfin l'acteur à part entière de son histoire et le reste du monde suivrait bientôt sous l'effet de la mondialisation. Tout l'objet de son dernier essai est de montrer que l'idéologie, entendue au sens large, est une invention moderne et qu'elle est le moyen privilégié par lequel la société autonome se déploie, puisqu'il faut désormais justifier les choix politiques opérés pour diriger le cours de l'histoire. En cela, l'idéologie représente l'exact contre-pied de la religion qu'elle remplace en tant que grille de lecture du monde. La religion, elle, si elle continue bien sûr d'exister au sens de la foi personnelle, serait vouée à disparaître en tant que structurant social, c'est l'idée défendue par Gaucher depuis l'apparition du désenchantement du monde en 1985. Et pourtant, cette thèse de la sortie de la religion est depuis battue en brèche par le choc des civilisations, par le retour du religieux aussi. Et la semaine pascale qui vient de s'écouler nous montre encore, je le crois, que la structuration religieuse du monde est loin d'avoir dit son dernier mot.
À quels événements faites-vous référence, Jérémy ?
Eh bien, en France, on fut à bon droit consterné par les déclarations du ministre de l'Intérieur Laurent Nunez, pour qui il serait inaudible de croire que l'islam soit incompatible avec la République, pour qui le port du voile par des mineurs n'est visiblement pas un problème, pour qui il faudrait développer et mieux faire connaître l'islam en France. Alors passons le contraste saisissant avec la rhétorique de son prédécesseur Bruno Retailleau, qui démontre que la présidence Macron n'a décidément ni queue ni tête. Non, le plus important est ailleurs, la donnée religieuse est un structurant social tellement fondamental que le ministre de l'Intérieur, tout franc-maçon qu'il est, ne peut pas ne pas composer avec elle. Ces déclarations nous disent avant tout la force, la vigueur, l'incontournabilité de l'islam en France. Alors on a beaucoup glosé sur la lâcheté du ministre, lâcheté qui s'est retrouvée outre-Manche, où le roi Charles III, pourtant chef de l'église anglicane et par là défenseur de la foi, a décidé de ne prononcer aucun message pour Pâques. On le sait, les élites européennes, qu'elles soient royales, républicaines, judiciaires ou administratives, ont abdiqué depuis belle lurette la défense de notre foi, hormis peut-être la Hongrie où Viktor Orban, en pleine échéance électorale, a reçu cette semaine le soutien de J.D. Vance au nom de la défense des valeurs chrétiennes. Mais la nouveauté historique, c'est que nos élites ont fait le deuil d'un monde athée d'où la religion devait disparaître, ou en tout cas refluer dans les espaces privés. Ce n'est pas le dernier paradoxe de la modernité. On a fait de chaque être un individu libre et autonome pourvu de droits inaliénables, ce qui d'un côté déliait toutes nos affiliations politiques telles la nation, ce qui de l'autre favorisait l'arrivée sur notre sol de populations ne partageant aucune de nos vues, ce qui au final produit, au cœur des sociétés multiculturelles, le ressurgissement de la structuration religieuse du monde que l'on croyait disparue. La modernité a comme fait un tour sur elle-même. Il est loin le temps où l'on croyait étouffer la vigueur islamique par la volupté du consumérisme. Ils ont certes troqué leurs babouches pour des Nike, mais l'islam va, il court, il vole.
Et avec les 21 000 baptisés adultes et adolescents ce week-end, peut-on parler d'une réaction chrétienne ?
Effectivement, cette implantation de l'islam sur notre sol réveille une énergie religieuse autochtone qui était enfouie. C'est ce que l'on voit à plein aux États-Unis, dans la plus pure tradition messianique. Face aux menaces qui pèsent sur l'Occident, les Américains semblent reprendre conscience de leur foi chrétienne, ce qui conduit là encore à un retour des structurations religieuses. J'en tiens pour preuve ces vidéos stupéfiantes, tournées à l'occasion du repas de Pâques de la Maison Blanche, où des pasteurs évangéliques tendaient allègrement leurs mains vers le président américain pour le bénir. S'en suivaient des discours assez lunaires, dont celui de sa conseillère spirituelle Paula White, qui comparait ni plus ni moins Trump au Christ. Comme lui, il aurait été trahi, arrêté et faussement accusé. Mais grâce à la victoire du Christ sur la mort par la résurrection, Trump avait lui aussi pu se relever et remportera désormais la victoire dans tout ce qu'il entreprendra. Car Trump, en somme, est un envoyé de Dieu pour combattre le diable, raison pour laquelle le même Trump consacrera la nation américaine à Dieu le 17 mai prochain. Conformément aux thèses du financier Peter Thiel, Trump se prend pour le catéchone, cette force qui doit retenir la venue de l'antéchrist et donc retarder la fin des temps. La conséquence institutionnelle, c'est que Trump se prend pour un président de droit divin, missionné par le ciel pour envoyer les mollahs en enfer. Chose frappante, quand on connaît l'histoire américaine, il se déclarait dernièrement au New York Times que la seule limite à son pouvoir était, je cite, « sa propre morale », ce qui n'est pas là pour nous rassurer. Que Trump y croit ou non, il est en tout cas intéressant de noter que pour légitimer une guerre qui divise jusqu'à ses propres partisans, c'est aux catégories religieuses qu'il décide de recourir, comme si celle-ci restait le plus puissant levier argumentatif pour emporter l'opinion. C'est bien une guerre religieuse, une guerre spirituelle, répète son état-major.
Mais que vaut cette rhétorique ?
Mais nul doute que Trump instrumentalise ici, de manière assez insupportable d'ailleurs, la foi chrétienne. La jouissance démurgique qu'il éprouve à l'idée de pouvoir anéantir une civilisation d'un claquement de doigts semble plus diabolique qu'angélique. Du reste, la condamnation nous est venue de Rome, cette unique boussole en ces temps troublés. Lors de son voyage à Monaco, le pape n'avait pas fait grand cas des envolées trumpiennes. Citation, « Le don de la petitesse avec un héritage spirituel vivant engage votre richesse au service du droit et de la justice, surtout à un moment historique où la démonstration de la force et la logique de la toute-puissance blessent le monde et compromettent la paix. C'en était fait du manichéisme évangélique. » Cela dit, le problème théologico-politique que l'on disait révolu depuis Thomas Hobbes va se poser à nouveau frais avec cette religion qui revient. Comment articuler la politique et la foi en respectant pleinement les espaces de l'un et de l'autre ? Le même Léon XIV nous a donné un élément de réponse lors du chemin de croix qu'il a prêché le Vendredi Saint au Colisée. À la première station, qui marque le moment où Jésus a été condamné à mort, il rappelait que les détenteurs de l'autorité devront répondre devant Dieu de la manière dont ils ont exercé leur pouvoir. Cela vaut pour ceux qui l'ont combattu, nié ou instrumentalisé, pour Laurent Nunez, Charles III et Donald Trump.
Merci cher Rémi Carlu. Heureusement, pour l'instant, les millions de civilisations qu'il promettait de détruire n'ont pas encore été détruits. Revenons à notre sujet avec François Cereza qui publie Nos amis les traîtres au Cherche Midi. Donc retour sur une spécialité française, la trahison. Donc c'est un 52 portraits, même un peu plus, de traîtres bien français. Fort sympathique, qui crée le débat, parce qu'on n'est pas forcément tous d'accord avec les portraits choisis. On se dit, il en manque, et celui-là, c'est un peu abusé. Bref, revenons sur le fond. Est-ce que la trahison suppose toujours d'avoir du talent ?
Ah oui.
Ou il y a des traîtres nuls ?
Les traîtres au petit pied, c'est vraiment terrible. J'en citerai pas, il y en a beaucoup actuellement.
Mais non, il y en a quelques-uns.
Ouais, non, je sais pas. Enfin, bref. Non, je pense qu'il faut avoir une certaine envergure. Mais les personnages, d'ailleurs, de Shakespeare, de Racine, de Corneille, enfin de toute la littérature française du XVIIIe ou même du XIXe siècle, encore que le XIXe siècle, ça devient une littérature un petit peu plus populaire, on a besoin, c'est une nécessité absolue, que d'avoir des traîtres dans une histoire. Je vous l'ai dit au début, me le répète, mais... Je pense à une phrase de Saint-Just, que j'admirais beaucoup quand j'étais jeune.
Pas grave.
Qui disait « Les vertus farouches font des mœurs atroces ». Mais c'est vrai, tous nos républicains, enfin nos pseudo-républicains qui se réclament toujours de la Révolution française, je pense aux gens notamment de LFI, ils devraient méditer ce genre de phrase parce que... Vous voyez un peu l'explication.
Ah, mais ils sont tous trahis de toute façon.
Les uns, voilà. Et
qui trahira Mélenchon sans ses francs.
Ouais, et sous la Révolution, on ne sait pas s'il s'agit de trahison. On s'élimine les uns les autres. C'est d'abord Hébert, du parti hébertiste. C'est d'abord, les Girondins, qui sont un peu trop royalistes au goût des révolutionnaires, des Jacobins. Et pourtant, ce sont eux les premiers qui ont demandé la mort du roi, alors que Robespierre était contre. C'est donc les partis d'Hébert, qui est un espèce de type affreux, qui avait créé un journal qui s'appelle Le Père Duchesne, où il ne pouvait pas commencer ses éditoriaux en disant « Foutre !» Ah, franchement, le crétin. Et lui, quand il a été guillotiné, c'est amusant. C'est pas une petite histoire que j'invente ou qu'on m'a racontée. Les historiens notent une chose, c'est que lui, il a été guillotiné en même temps que des chefs qui se sont illustrés en Vendée. Vous imaginez de quelle façon. Surtout des chefs, des généraux qui se sont comportés comme des soudards. On dit qu'il y a 200 000 Vendéens qui ont été tués avec ces espèces de pourris qui étaient envoyés là-bas. Oui. Je crois que c'était les deux généraux, pour ne pas les citer, c'était Roncin et Vincent. Personne ne connaît ces gars-là. Mais au moins, eux, sur la charrette, ils avaient une certaine allure de la tenue. Ils sont allés se faire couper la tête, pas comme Danton, mais presque. Alors que l'autre, qui réclamait tellement des têtes, qui a accusé la reine Marie-Antoinette d'avoir des rapports incestueux avec son fils. C'est Hébert, tout ça. Pour moi, les gens de LFI ressemblent beaucoup à Hébert et aux tricoteuses qui sont là. Lorsqu'il était dans la charrette, il se cachait comme ça, en mettant des trucs sur la tête, il y a toujours de la paille, en disant non, je ne veux pas mourir. Et les deux généraux qui étaient là, en disant un peu de tenue, s'il te plaît, citoyen Hébert. On l'a quand même raccourci, cette enflure.
Rémi Carlu.
Oui, Peggy disait qu'un bon journal va fâcher nécessairement 20%, doit fâcher 20% de ses lecteurs. Vous, votre livre réussit cette gageure, ou si c'est pas fâché, en tout cas, on a mauvaise conscience, puisque quiconque lira le sommaire retrouvera certains de ses héros dans cette galerie de portraits. A-t-on le droit d'aimer un traître, ou est-ce que sa traîtrise le condamne?
Mais je vous disais, évidemment qu'on aime certains traîtres, surtout quand il s'agit de chefs, de généraux, de maréchaux, je pense à l'Empire, essentiellement. Je pense pas à ce qui vient après, parce qu'il y en a qui se sont pas très bien comportés, notamment sous Napoléon III, avec le maréchal, je ne me souviens plus son nom, qui a été en plus légionnaire, chef de la Légion, et qui est resté à Metz avec ses 150 000 hommes et qui n'est pas intervenu. Ce qui a provoqué la bataille l'incroyable bataille de Sedan, où la France a été réduite à néant en 1870, ce qui a permis aux Allemands déjà de mettre le pied en France et de prendre l'Alsace et la Lorraine. Donc, est-ce que c'était un traître Je crois qu'on doit l'avoir, maréchal. Comment, c'est une espèce de gros lard, enfin bon.
On n'a pas les photos.
Il y a Murat, il y a Ney, alors il y en a beaucoup là. Hein.
Attendez, je vais juste regarder.
Sous Napoléon III.
Sous Napoléon III. Ah non, je crois Napoléon le...
Le type n'est pas foncièrement antipathique d'ailleurs, mais franchement, je veux dire, pourquoi il a fait ça, quoi. Napoléon III, en plus, vous savez qu'il souffrait, il avait la maladie de la pierre. C'est-à-dire qu'à l'époque, on ne pouvait pas soigner les calculs. Vous imaginez quand on en a des calculs?
Ah oui, non, je confirme, c'est une horreur.
Ça fait bobo, hein. Bazaine, voilà.
Bazaine. Le maréchal Bazaine. Ah
oui. Donc,
alors on va rentrer un peu dans le détail maintenant.
Oui, oui.
Parce que là, on va se fâcher et s'amuser. Donc, quelques portraits. On va commencer par une personnalité qui n'en est pas une, puisque c'est les émigrés. Alors, pourquoi un chapitre consacré... Alors, les émigrés, c'est ceux qui, pendant la Révolution, sont barrés.
Ouais.
Sinon, ils se faisaient liquider.
Bah, ils considéraient comme traîtres, hein.
Oui, mais pourquoi le mettre dedans et pas De Gaulle, par exemple? Vous avez choisi des émigrés et vous n'avez pas mis De Gaulle.
Non. Je vous dis, je n'ai pas choisi non plus Mitterrand.
Je sais bien.
C'est un summum de trahison, Mitterrand. Et De Gaulle, pour certains, ils ne l'ont toujours pas avalé, l'Algérie. Donc, il ne faut pas remuer le couteau dans la plaie.
Bon, racontez un peu les émigrés pour nos auditeurs. Donc, vous commencez par la définition du Pierre Robert. Un émigré est une personne qui s'est réfugiée hors de France sous la Révolution.
Oui. Alors, tout ça a été quand même... très diligenté, j'allais dire, par un abruti terrible, qui est le futur Charles X. Vous savez, Charles X, c'est lui qui a décidé la conquête de l'Algérie. Il a envoyé un autre abruti, d'ailleurs, qui s'appelle Bourmont, le comte de Bourmont, qui est passé des émigrés à la Révolution, de la Révolution aux émigrés, et qui ensuite, au dernier moment, et ça, ce dernier moment était fatidique, puisque c'était à Waterloo, il change de camp. Alors que Napoléon l'avait adoubé d'une certaine façon. Bon, allez, je vous pardonne, en effet, je vous donne... Et ça, si ça, c'est pas des traîtres, alors voilà, lui, c'était un émigré de la pire espèce, même. Donc, j'ai pas beaucoup de sympathie pour les émigrés. C'est mon côté, sans doute, jacobin révolutionnaire qui revient. Mais Dieu sait que j'ai aimé 93, que j'ai aimé Le Chevalier des Touches, que j'ai aimé d'Alexandre Dumas, Les Blancs et les Bleus. Donc, mais j'ai toujours été... Je me souviens d'un film formidable, que vous ne connaissez peut-être pas, qui s'appelait « La terreur et la vertu », qui avait été fait par le communiste Stelio Lorenzi et qui racontait justement cette période terrible qui est la Révolution française avec tous ces gens qui s'éliminent les uns et les autres et qui sont en but aux émigrés. Parce que les émigrés, qu'est-ce qu'ils essayent de faire ? Ils essayent de faire une armée. Ils se sont toujours plantés. Il y a eu ce pauvre Condé qui a fait une armée qui s'appelait l'armée de Condé, d'ailleurs, où ils étaient loqueteux. Les Anglais leur filaient pas un rond, les Autrichiens leur filaient quelques fusils, et à chaque fois qu'ils avaient une bataille, enfin, pratiquement à chaque fois, ils se faisaient battre. Donc, les émigrés, ça n'existe pas. Il y a l'émigration en Angleterre. Vous savez que là, il y a une histoire qui a été montée, une affaire, une expédition, où encore une fois, les Anglais se sont comportés comme ils se comportent toujours.
Comme les Anglais.
Allez-y, les gars, on regarde, et on va voir ce que ça va donner. Hein. Et ben, c'était l'opération de Quiberon.
Oui, oui, bien sûr.
Donc, il y a plein d'émigrés qui avaient des beaux uniformes. Hein, ça, ils leur avaient donné des uniformes et tout ça. Ils se sont fait massacrer par les canons de Hoche, mais vraiment taillés en pièces. Et en plus de ça, tous ceux qui se sont rendus, Hoche, qui était quand même quelqu'un qui se comportait assez bien avec ses ennemis, a demandé à la Convention son avis. Et la Convention a dit qu'il faut tous les fusiller. Et ils ont tous été fusillés. Voilà ces pauvres émigrés. C'est des histoires d'échecs sans arrêt, c'est des histoires à répétition. Il n'y a que la littérature qui peut nous les rendre sympathiques avec le Comte de Lantenac de 93, avec. Je citais tout à l'heure Le Chevalier des Touches. Voilà, c'est vrai qu'il y a une sorte de romantisme, ça correspond au romantisme. Hugo et Dumas, qui ont tous les deux eu des généraux qui étaient dans l'armée républicaine. Notamment Dumas, qui a eu un père, le général Dumas, qui était un type formidable, qui soulevait 5 fusils dans ses 5 doigts, qui s'accrochait à une poutre et soulevait un cheval entre ses cuisses. Enfin, tout ça, Dixit Dumas. Hein. Bon,
oui,
évidemment. Que c'est...
En toute objectivité, c'est pour ça
même Dumas. C'est pour ça qu'on aime ce personnage.
Évidemment.
Quand il dit que pendant la campagne d'Égypte, le général Dumas rentre dans une mosquée parce qu'il a été averti par ses soldats, au dernier moment, il est à cheval, il rentre à cheval dans la mosquée, et tous les fidèles qui sont là se prosternent devant lui en pensant que c'est un ange descendu du ciel. Bon. C'est l'histoire de Dumas, mais c'est ça qu'on aime. Alors, ce qu'on aime, ce n'est pas les petits traîtres de petite envergure qui font leur truc dans un coin, comme un fameux général sarrasin que je cite là, qui est un nul de chez nul. Quoi.
Oui. Alors, vous avez parlé de Bourmont, le comte de Bourmont. Juste avant, vous avez Bourmont. Alors, je me dis, putain, la vache, lequel ? Bon, ça va, je suis rassuré, c'est le comte de Montpensier.
Bourmont.
Oui. Non, il y a Bourmont et Bourbon.
Ah ben Bourbon, c'est autre chose.
Oui, racontez-nous un peu le duc de Bourbon, le comte de Montpensier.
Et sachez une chose à propos de Bourmont, ce qui est assez amusant, c'est que le descendant de Bourmont s'est engagé dans la Waffen-SS.
Comme quoi ?
C'est héréditaire.
Ça reste dans le sang. Alors, justement, Bourbon, avec un B, comme baleine, donc le connétable. Donc c'est le comte de Montpensier, moi je connaissais la princesse.
La princesse ?
La princesse.
À cause du film, vous.
Exactement. Tavernier, jusqu'au bout. Donc, le comte de Montpensier, duc de Bourbon et d'Auvergne, dit le connétable de Bourbon. Racontez-nous un peu son affaire, lui.
Non, parce que je m'en souviens plus.
Bon, d'accord, on va passer. Alors, si vous voulez, je l'étais dit, ça va faire une transition pour rester consensuel.
Il n'a pas grand intérêt, surtout. Il y en a quelques-uns que j'ai mis qui font partie de l'histoire, mais qui n'ont pas grand intêt. Il y a des pauvres maréchaux sous Louis XIII ou sous Louis XIV qui participent à des complots, parce qu'il y a beaucoup de complots, et les complots, ils viennent d'où, en général ? Ils viennent ou de la femme de Louis XIII, lorsqu'il s'agit de Louis XIII, c'est-à-dire Anne d'Autriche, qui a été sublimée dans certains romans et qui est quand même pas quelqu'un qui est formidable, ou du frère de Louis XIII, qui lui est un vrai petit monstre.
Oui,
ouais, ouais. Bon, on peut remonter aux Valois, hein, la chute des Valois, les trahisons, il y a que ça. Avec Henri III, notamment autour de la cour de Henri III, avec les mignons, avec je veux dire les gens qui passent, au moment de la guerre des religions, qui sont d'abord protestants, qui ensuite sont catholiques, oui. Et qui redeviennent catholiques, et qui redeviennent protestants. Comment voulez-vous vous y retrouver
Henri
IV, avec tes...
Alors justement, Henri IV... Parce
ah
que
non,
vous...
non, 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 ça c'est la fin d'Henri III. Ah,
oui, n'oubliez oui, je sais, mais
n'oubliez
oui,
pas que aussi, le massacre de Saint-Barthélemy, c'est ni Henri III ni Henri IV.
Bien sûr.
C'est l'autre qui est dans son lit, qui
oui,
est en train de crever.
Qui transpire du sang.
C'est Charles IX.
Alors, vous parlez, vous avez consacré un chapitre à Henri IV. Et j'avoue, j'étais surpris. Henri IV, qu'est-ce qu'il fout là-dedans? Racontez-nous Henri IV.
C'est pour embêter,
sa trahison, laquelle?
C'est pour embêter le maire de Pau, enfin l'ex.
Qui a écrit... Ok, vider de vengeance.
Qui a écrit un livre là-dessus, attendez, Henri IV, c'est le bon roi Henri. Le bon roi Henri est un traître par définition incroyable. Il est protestant, il devient catholique, il redevient protestant, catholique. Paris vaut bien une fesse. Ça, c'est oui, lui, c'est ça qui lui convient parfaitement. Paris vaut bien une fesse. Ce monsieur était un ottomane incroyable qui puait l'ail en plus.
Mais c'est dans
ça maintenait la vigueur. C'est son aphrodisiaque, l'ail.
Eh oui, c'est avec l'ail, on mettait de l'ail sur les ergots des coqs pour qu'ils soient beaucoup plus ardents au combat.
Ah bah voilà.
Alors je pense que monsieur Henri IV
était ardent, mais pas
était
que au
ardent,
combat.
Mais il s'allie notamment avec un, là aussi un traître incroyable qui est le frère de Henri III, qui est, excusez-moi, le duc de Montpensier, qui ensuite devient le duc d'Anjou. Voilà.
Oui, lui, le plus jeune.
Le plus jeune, l'affreux.
Qui avait été roi de Pôle,
François. C'est François.
François, oui, voilà, François, exactement.
Chef des je veux dire, c'est des gens, ils ne passent leur temps qu'à ça, quoi. C'est leur passe-temps favori. Ils trahissent.
On a Rémi Carlu dans sa chronique, a rabillé notre camarade Donald Trump qui, se rappelant qu'il est furieusement messianique, se prend pour Dieu. On va peut-être lui envoyer juste le chapitre sur Lafayette, comme ça il rappellera ce qu'il nous doit aussi. Mais alors, bah, quand même. Ils ont oublié leur dette. Lafayette.
Ah,
Lafayette. Ouais, mais alors Lafayette.
Les Américains qui disent ça, mon œil.
Bon, racontez-nous Lafayette. Oui. La trahison de Lafayette. Bah, Lafayette.
Bah, le traître Lafayette, d'abord, il fait tirer sur la foule.
Dans quel cadre?
Eh bah, bien, au moment de la fête de l'être suprême, ou juste avant, pardon. Oui, c'est ça, hein, je me trompe pas, il y a des historiens dans le coin, non?
Ah, moi, bah, Lafayette, c'est pour ça que j'étais surpris de le retrouver dedans, c'est pour ça que ça m'a amusé. Bah,
Lafayette, vous avez gardé l'image d'un type qui a été, c'est vrai, quand il était jeune, formidable combattant pour l'indépendance américaine. On oublie d'ailleurs un peu trop l'autre, dont je ne me souviens plus le nom, qui a été un général de premier ordre aussi. Mais Lafayette a toujours fait en sorte qu'on le prenne en considération aussi bien auprès du roi et de la reine, sauf que la reine ne voulait pas entendre parler de lui. Elle disait, ah non, s'il vous plaît, tout, mais pas monsieur Lafayette. Qui s'est déclaré ouvert aux idées républicaines et aux idées de liberté, puisque en effet, il avait été un des artisans au moment de la guerre d'indépendance. Il avait aidé, en tout cas c'est surtout la flotte française qui est intervenue au moment de Yorktown notamment, mais c'est un personnage, c'est un traître de comédie presque, Lafayette. Vous savez qu'il réapparaît ensuite sous Louis XVIII, Bonaparte n'en voulait pas, hein. Lafayette avait dit moi...
Oui, il réapparaît sous Louis XVIII.
Oui, bien sûr, ben, il apparaît et puis au moment de la révolution de 1830. Il change de calotte sans arrêt.
Il meurt à Paris le 20 mai 1834. Alors je vais lire un petit passage qui est assez amusant.
C'est en 1830, pardon. Hein. La révolution de 1830, il prend fait et cause pour le...
Oui, il revient en 1830 grâce à Louis-Philippe, vous l'expliquez. Voilà. Et il meurt 4 ans après. Alors petit passage, le 11 février 1790, Louis XVI entend récupérer ses pouvoirs, mais Gilbert, Lafayette, se refuse à tout complot. Là, il n'aime pas les complots. Contre la Révolution. Dans la foulée, il réprime une émeute et fait arrêter plus de 200 personnes. La fuite du roi à Varennes dans la nuit du 20 au 21 juin 1791 porte un coup à son image. On se pose des questions, c'est encore lui. Pour se disculper, il affirme que le roi et la famille ont été enlevés. Mais Dieu merci, lui, le marquis de Lafayette, était là pour les délivrer à Varennes. Quoi qu'il dise, l'alliance entre le peuple et son Altesse royale en prend un coup dans l'aile. La reine Marie-Antoinette dit Je vois bien que Monsieur Lafayette veut nous sauver, mais qui nous sauvera de Monsieur Lafayette ?
Voilà, c'est ce que je vous disais. C'est ce que je vous disais à propos de Marie-Antoinette. Elle le détestait.
Rabbi à Lafayette. Oui. On leur dit de laisser aux Américains.
Quel esprit.
Bon, alors ouais, là, il y a un chapitre qui va
faire. Et vous savez que comme Dumouriez, parce que Dumouriez aussi est un traître, il figure aussi dans la liste, et pourtant, c'est un général qui a quand même gagné la formidable bataille avec les moulins de comment
Décidément, les mots, les choses me...
Ah, je ne peux pas vous aider. Moi, si, je suis plongé dans Xavier Bertrand. Là,
si, vous pouvez m'aider parce que
c'est Xavier Bertrand.
C'est la bataille, la fameuse bataille, la première bataille gagnée contre les Prussiens par la jeune France révolutionnaire. Valmy. Et Valmy, c'est du Dumouriez.
Surestimé comme bataille.
Bah, d'accord, mais c'est quelques coups de canon qui suffisent. Hein.
Oui, c'est pour ça, surestimé. Ouais.
Et celui qui est surestimé, surtout, c'est celui qui est avec Dumouriez, à qui on attribue cette victoire, et qui se révélera être un pauvre personnage, qui est Kellermann, qui sera fait d'ailleurs maréchal par Napoléon, on ne sait pas pourquoi, et qui au moment du procès de Ney, va voter la mort de Ney. Vous voyez un peu, c'est les copains, quoi.
Alors, bon, question qui fâche, quoi qui nous fâche. Page 347, un chapitre consacré à, là vous en mettez 4 pour le prix d'un, le fameux Carteron, Salanjou, Ozélère, Châle. C'est quand même pas sympa de les mettre dans les traîtres.
Bah, ils ont été considérés comme tels.
Mais par qui ?
Bah, par l'histoire, je ne dis pas par De Gaulle. Hein. L'Algérie française...
Non, mais par l'histoire, mais l'histoire...
Ouais. L'histoire, c'est...
L'histoire écrite par les vainqueurs.
Bah, elle est toujours écrite par les vainqueurs. Okay.
Parce que là, pour le coup, on a le sentiment que c'est une trahison une trahison morale nécessaire.
Ils sont restés fidèles. En plus, quand c'est si mal organisé, si mal ficelé, ce putsch... Moi, j'avais un copain qui avait été dans les paras, et un autre copain qui était dans le premier régiment, le premier EP, hein, premier régiment étranger de parachutistes, qui s'est soulevé. Rien n'a été organisé de façon militaire, si je puis dire. Or, ils étaient quand même dirigés par Salan, de loin, puisque Salan était plus ou moins à la retraite, hein, faut pas oublier quand même. Mais ils étaient dirigés quand même par des militaires de haut rang.
De haut rang, bien sûr.
Alors, ça nous laisse perplexes quand même sur l'efficacité de l'armée française. Je veux dire, un putsch comme ça, il aurait dû être, je suppose, calculé, bien maîtrisé, avec tous les régiments qui étaient aux alentours, notamment les régiments de choc, c'est-à-dire parachutistes, infanterie de marine, etc. Et tout le monde s'est défilé. Quand De Gaulle revêt son uniforme et il dit « il y a un Carteron de généraux à la retraite », déjà, on sait que c'est foutu. Donc, c'est une trahison stupide. Vous voyez, il y a des trahisons stupides.
Ratées.
Ouais, ratées.
Ouais. Mais peut-être morale.
Oui.
C'est peut-être pour ça qu'elle a raté, d'ailleurs.
Ils l'ont fait par fidélité.
Et ceux des traîtres, enfin, considérés comme traîtres, qui sont, que ce soit Bastien Thiry ou tous les autres, les gens de l'OS, etc., malheureusement, pour eux, là aussi, c'est une bataille perdue d'avance.
Alors,
De Gaulle invente le SAC,
oui.
Service Action Civique, hein, comme vous savez, et les gars, ils sont aussi méchants que les autres. Hein.
On a commencé par... vous avez commencé vous-même, d'ailleurs, par Taliban. Ce serait bien de finir par Fouché, comme ça, on donne un peu à tout le monde. Et j'ai compris l'admiration que vous portiez à Fouché. Alors, racontez-nous un peu cette admiration pour le camarade Fouché.
Et il y a un livre formidable de l'écrivain juif autrichien, Zweig, qui est un petit portrait de Fouché, que je vous conseille, parce que ça se lit comme un roman. C'est un personnage hors du commun. Il a été prêtre. Il faut toujours se méfier de ceux qui
accèdent
à la prêtrise. Enfin, il a fait le petit
séminaire.
Mais je crois même qu'il a été ordonné.
Ah bon ?
Ouais. Donc, il pouvait s'entendre, évidemment, avec Fouché, mais il y en a plein d'autres, hein, comme ça, hein, qui... l'infâme Carrier... qui a tué tout le monde à Nantes, qui a noyé les gens en créant le mariage républicain. On attachait un homme et une femme tout nus et on les mettait dans un bateau qui coulait. Lui aussi, il avait été ecclésiastique avant de devenir juge. Vous savez, c'est la parole de votre ami Mitterrand.
Mon ami.
Bah, c'est ce que vous aviez l'air de dire. les juges ont eu la peau de la monarchie, ils finiront par avoir la peau de la République.
Oui, bien sûr.
Ouais, oui. Donc... lui, c'est vraiment l'horrible type. Vous savez qu'il avait failli se marier en plus avec la sœur de Robespierre. Ils étaient très intimes
jusqu'au moment où Robespierre se dit Fouché est un traître, donc Fouché, je vais le mettre sur la liste. Quand on les met sur les listes, ça fait mal. C'est-à-dire qu'on finit sur...
raccourci.
Attention à vous.
On finit sur la veuve.
Message à un auditeur, c'est Rochambeau qui dirige les troupes françaises en Amérique. Voilà, Lafayette était un aventurier opportuniste qui va se montrer chez les insurgés américains, style Bernard-Henri Lévy.
Bravo. Ben voilà, voilà.
C'est pas moi, c'est un auditeur.
Ah ben, je félicite cet auditeur.
Cher auditeur, vous voici félicité.
C'est Rochambeau. Le grand personnage. Mais lui, il n'allait pas, évidemment, lécher les burnes de M. Louis XVI, et donc il n'a pas obtenu ce qu'il voulait. Alors que l'autre est un opportuniste de première. Enfin, on va pas revenir à lui, on revient à notre ami Fouché, parce que c'est un personnage de roman, hein, Fouché. C'est une sorte de vautrin, c'est une sorte pas Vautrin, mais dans Victor Hugo.
Lequel? Le 93?
Le flic, le méchant.
Javert.
Javert, voilà, c'est Javert. C'est vraiment quelqu'un qui ose en plus se réclamer de la République, de la liberté, de la démocratie, qui va à Lyon et qui fait tirer sur les opposants au canon, comme Bonaparte. À Saint-Roch fait aussi tirer sur les royalistes qui se soulèvent.
Donc, et comme Lafayette, c'était au Champ de Mars.
Voilà, Champ de Mars, exactement. Donc, encore une fois, je vous conseille la lecture de ce petit livre sur ce personnage hors du commun, parce qu'on adore haïr les traîtres. Je ne sais même pas d'ailleurs si finalement c'est un traître de haute Grèce, c'est affreux. Parce qu'il ne pense finalement qu'à lui, et il ne pense qu'une chose surtout, c'est lui quand même qui crée cette police, avec le repris de justice, dont j'oublie le nom, évidemment, qui a écrit d'ailleurs un formidable dictionnaire de l'argot.
Je ne veux plus vous aider, j'étais pas né.
Ouais.
Bon, en tout cas, vous l'aurez compris, chers amis, vous avez 52 portraits, même un peu plus, dans ce livre qu'on vous conseille, Nos Amis les Traîtres, aux éditions du Cherche Midi. François Cereza, merci beaucoup, c'était passionnant, drôle, et on apprend plein de choses. Donc voilà, et on retrouve exactement ça dans le livre, donc chers auditeurs, allez-y. Il est 18h32, le temps d'une petite pause, et on se retrouve tout de suite après, et on va causer laïcité.